Aborder les sciences autrement à la découverte des médiations. Une série estivale des bénévoles du Labo des Savoirs, réalisée par Elia Técher et Charlotte Beaune, avec la participation de Cécile, Jérémy, Célie et Julie. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet. Épisode 3, sortir le grand jeu.
Est-ce qu'on apprend mieux en s'amusant? Et si la clé pour mettre la science à portée de tous, c'était d'y jouer? C'est l'idée derrière les Serious Games, ces jeux sérieux en français. Transformer des concepts complexes en défis ludiques et stimulants, où l'on apprend et comprend sans même s'en rendre compte. Bien que ces dispositifs ne soient pas réservés exclusivement au milieu scientifique, depuis quelques années, un bon nombre de projets de recherche s'y mettent afin de communiquer sur leurs résultats. Aujourd'hui, on va explorer deux exemples concrets où le jeu devient un outil de médiation scientifique. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appris la phylogénétique en cours de SVT au collège ou au lycée ? Oui, cette branche de la biologie où on essaye de classer les espèces selon leur classe, leur ordre ou encore leur famille. Pour les plus chanceux d'entre nous, nous avions même eu l'occasion de tester le logiciel Anagen qui n'était, pas très ludique, il faut bien se l'avouer. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Puyandre, maître de conférence, et Mathilde Monvoisin, post-doctorante, tous les deux au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Leurs travaux de recherche portent sur la taxonomie intégrative, la discipline qui consiste à décrire la diversité biologique et comprendre les processus évolutifs et adaptatifs. Il nous raconte comment on peut rendre la phylogénétique plus récréative avec le jeu de société CLAD. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter la création de ce jeu ?
Donc j'ai obtenu un financement européen pour un projet de recherche et souvent dans ce genre de projet, on doit montrer un petit peu comment on va diffuser les résultats qu'on a obtenus. Donc le classique, c'est de faire un site web. Je voulais faire un truc un peu différent et comme j'aime bien les jeux de société, je m'étais dit on va faire un jeu de société. Au début, l'idée, c'était de faire un jeu de société basé sur une phylogénie. Donc c'est une représentation graphique des relations de parenté entre les organismes. Et donc j'ai commencé à réfléchir à des mécaniques de jeu associées à ça. Ensuite, la grande chance que j'ai eue, c'est que dans l'équipe de ce projet de recherche, j'ai embauché quelqu'un dont le mari est directeur d'un labo spécialisé dans les jeux de société. Donc du coup, on a collaboré. Eux, ils ont trouvé une mécanique de jeu qui était vraiment super. C'est justement eux qui m'ont expliqué comment dégager le ou les quelques concepts qu'on va vouloir faire passer, quel public on va viser. Ça aussi, c'était une question vraiment importante au début. C'est effectivement, on ne fait pas le même jeu si on s'adresse déjà à des biologistes qui veulent se perfectionner en phylogénie ou à des enfants. Nous, du coup, c'est le public qu'on vise, donc plutôt fin de primaire jusqu'au lycée. Et donc, on a créé un jeu qui s'appelle CLAD. Donc CLAD, c'est un ensemble d'organismes qui partagent un ancêtre commun exclusif. Et donc c'est la notion qu'on veut faire passer. Donc c'est un nom qui était plutôt sympa pour le jeu. Donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. Il y a un plateau avec un arbre phylogénétique. Et les joueurs ont des cartes en main et doivent sélectionner des animaux ou des organismes plus généralement qui vont poser devant eux. Et les animaux qui vont poser côte à côte devant eux vont rapporter un certain nombre de points en fonction de leur proximité, leur degré de relation de parenté dans l'arbre. Plus ils sont proches dans l'arbre, plus ils rapportent des points. Plus ils sont éloignés, moins ils rapportent de points. Et la petite subtilité, c'est que c'est un jeu où en fait on passe les cartes à son voisin, donc un peu comme Seven Wonders, qui est un jeu très connu. Donc au début, on a 9 cartes en main, on choisit un organisme, et les 8 cartes qui nous restent, on les passe au voisin, et donc on récupère les cartes de son voisin de droite. On choisit une nouvelle carte qu'on pose devant soi, on passe à son voisin, etc., jusqu'à ce qu'on ait posé 9 cartes devant soi. Et à la fin, en fonction des proximités dans l'arbre, on compte les nombres de points. Celui qui a le plus de points gagne. Donc ce qui est sympa, c'est que ça reste un jeu fun. En tout cas, les tests qu'on a faits, c'est les retours qu'on a eus. Surtout, les joueurs sont obligés de lire l'arbre phylogénétique, donc de savoir lire l'arbre phylogénétique pour savoir combien de points ils vont avoir. Et donc choisir les bonnes cartes, éventuellement bloquer les adversaires quand ils voient que les adversaires ils essayent d'avoir telle carte. On va essayer de les prendre pour qu'ils marquent moins de points. Donc il faut constamment lire l'arbre. Et donc effectivement, les tests qu'on a faits, essentiellement avec des collégiens et des lycéens, effectivement, à la fin du jeu, ils avaient bien compris comment on devait lire l'arbre, alors qu'au début du jeu, ils tâtonnaient.
Mais alors, comment fait-on pour adapter un domaine de recherche complexe de manière ludique et accessible ?
La chance qu'on a eue dans notre domaine, donc la systématique, phylogénie, taxonomie intégrative, c'est qu'on a une représentation graphique que tout le monde connaît, qui est l'arbre phylogénétique. Donc tous les biologistes connaissent, savent ce que c'est qu'un arbre phylogénétique. C'est montré aux élèves, alors plutôt en lycée, avant c'était montré en collège, mais je crois que ça ne l'est plus. Donc en fait, on avait un support graphique, et on a eu cette idée dès le début. Enfin, je l'avais eu tout seul quand je réfléchissais de très loin à ce truc-là. Et on l'a gardé jusqu'au bout. Donc on a toujours ce plateau avec cet arbre phylogénétique. Et donc ça a été une grande chance parce qu'il y a plein d'autres concepts en biologie ou en sciences en général qu'on aurait eu beaucoup plus de mal peut-être à présenter. Parce que sans support graphique, c'est compliqué. Alors que là, voilà, on avait un beau support graphique et il suffisait, entre guillemets, c'était pas si simple, de trouver ensuite la mécanique de jeu qui permettait de forcer le joueur à lire cet arbre et à savoir lire cet arbre phylogénétique. Donc en fait, ça, une fois l'idée de base posée, un arbre phylogénétique et la mécanique trouvée, c'est mes collègues qui ont trouvé la belle mécanique où en fait on se passe les cartes et on doit poser les cartes devant soi pour avoir des points. Une fois ça posé, c'était gagné en fait. Donc ça n'a pas été si compliqué que ça, je dirais. J'imagine que sur d'autres concepts en sciences, on aurait beaucoup plus de mal à trouver un support visuel et ludique pour présenter ce concept.
Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel à garder en tête lorsqu'on crée un jeu à visée éducative ?
De toute façon, alors ce que j'ai appris en faisant le jeu de société, c'est que le message qu'on veut faire passer aux joueurs, ce qu'on veut leur apprendre, ça doit être très très simple. Moi, je voulais leur faire apprendre ce que c'était une phylogénie, comment on lit un arbre, tous les concepts associés à la phylogénie, et qui ressortent quelque part en ayant compris quasiment tout sur la phylogénie. J'exagère, mais j'avais vu beaucoup trop large. Et en fait, les collègues avec qui j'ai travaillé, qui sont des spécialistes du jeu de société, m'ont dit non, il faut vraiment réduire au maximum la notion, le concept que tu veux faire passer pour que ça soit très simple, qu'il y ait un, deux concepts, trois concepts grand maximum que tu fais passer à travers le jeu. Donc c'est ça la difficulté en fait, ça a été de partir d'un outil, d'un concept qu'on utilise nous très souvent en biologie, à quelque chose qu'on a réduit à une ou deux sous-concepts, un ou deux sous-concepts très précis pour que les joueurs ne soient déjà pas trop perdus et puis qu'ils en retirent vraiment quelque chose. Donc c'est ça la principale difficulté. En gros, ce qu'on fait passer à travers le jeu, ça doit pas être faux, bien évidemment. Bon, c'est le principe de la vulgarisation. Mais il faut pas vouloir trop en dire, quoi. Il faut pas vouloir raconter trop de choses. Et garder l'équilibre avec le côté fun. J'ai joué à des jeux scientifiques, entre guillemets, mais qui n'étaient pas fun du tout. Alors c'était très complet, on apprenait plein de choses, mais franchement, on avait joué une fois, on n'avait pas trop envie de rejouer. Il y a des jeux super fun où on n'apprend pas grand-chose et donc l'objectif c'était de trouver le bon équilibre. C'est vraiment ça qui a été difficile. Voilà. Donc pour l'instant le jeu n'est pas disponible. Il sera d'ailleurs pas commercialisé au moins dans un premier temps. En fait on va le distribuer quand il sera prêt. On espère dans quelques mois. On va distribuer les boîtes de jeux gratuitement aux professeurs de SVT qui viennent suivre les formations qu'on propose au muséum, les formations pour les profs. Et donc ils repartiront avec une boîte. Et avec laquelle ils pourront jouer avec leurs élèves pour introduire la partie du cours qui correspond à la biodiversité et à la classification des organismes.
Est-ce que vous avez dû faire des compromis pour créer le jeu ?
Alors en fait, on aurait pu faire un jeu qui dure 2 ou 3 heures. C'est vrai que ces jeux-là, c'est très sympa entre adultes. Mais comme on visait plutôt des enfants depuis le CM1 jusqu'au lycée, et de deux, l'objectif qu'on s'est très vite fixé, c'était un jeu rapide, de façon à ce que les profs puissent le faire sur une séance de cours. C'est-à-dire introduction de la thématique, explication des règles, jeu et conclusion, parce qu'il faut toujours faire un petit bilan à la fin d'une heure, et souvent les heures de cours, c'est plutôt 50 ou 55 minutes. Donc voilà, ça déjà, ça a été une première contrainte, donc ça nous a obligés à éliminer pas mal de mécaniques de jeu qu'on avait envisagées à un moment. D'ailleurs, mes collègues en avaient envisagé plusieurs qu'on a testées, et donc on a choisi une mécanique qui nous plaît beaucoup, mais avec une contrainte de pouvoir le faire. C'est un jeu qui dure 15 minutes, 10 minutes même quand on connaît bien les règles. Donc c'est un jeu très rapide.
Et quelles sont les perspectives d'avenir pour ce jeu ?
On va faire une première version du jeu où il y aura un plateau et donc des cartes vertébrées et un autre plateau primates. Donc ça correspond un peu au programme scolaire. Donc souvent les profs s'appuient sur les vertébrés parce que c'est les enfants, c'est ce qu'ils connaissent le mieux. Et puis les primates et surtout la lignée humaine parce que c'est beaucoup ce qui est utilisé dans les programmes en lycée. Mais effectivement, j'ai déjà pas mal de collègues au muséum qui m'ont proposé. Alors actuellement, j'ai déjà deux plateaux poissons, j'ai un plateau insectes, j'ai un plateau mammifères, j'ai fait un plateau mollusques marins, bien sûr. J'attends bientôt un plateau plantes, un plateau papillons. Enfin voilà, c'est infini. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On a même eu l'idée, enfin on m'a suggéré l'idée de faire des plateaux, par exemple les espèces qui vivent à Paris ou les espèces de tel parc naturel. Donc ça pourrait intéresser des collectivités locales qui voudraient leur propre version du jeu. On pourrait faire je sais pas moi, les animaux du sous-bois, les animaux des grottes. Enfin c'est infini quoi. Donc après c'est juste une question de trouver les financements pour éditer et fabriquer les nouvelles boîtes. Donc ouais, c'est infini. Et puis après, on peut effectivement, on pourrait imaginer. J'ai déjà un copain qui m'a dit ah non mais il faut que tu fasses une version advanced du jeu avec des règles un peu plus poussées où on pourrait, il y aurait des renversements de situation au cours du jeu. On pourrait prendre les cartes des autres. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses.
C'est quoi l'avantage des jeux pour la médiation scientifique finalement ?
Ben moi je pense que la réponse elle est assez simple, c'est le plaisir quoi. Donc j'ai testé le jeu là, Clad, on l'a testé avec une classe, ils étaient une vingtaine, donc on a fait 5 groupes de 4. Il y avait un groupe, je voyais bien au début, ils n'en avaient rien à faire. C'était 4 garçons, ados, voilà, jusqu'au bout des doigts, ça ne les intéressait pas du tout ce que je racontais. Donc on a lancé une première partie, ils faisaient n'importe quoi, ils ne suivaient pas du tout les règles, ils ne lisaient pas l'arbre, ils s'en foutaient, ils posaient les cartes sans regarder. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que les autres groupes se marraient bien, prenaient beaucoup de plaisir à jouer. Et en fait, on a refait une deuxième partie, et là, ils ont vraiment joué le jeu, et ils se sont vraiment éclatés. Et ils sont tous repartis en me disant... j'ai vu qu'ils savaient lire un arbre en partant. Alors c'était rigolo, parce qu'il y a même un groupe où ils avaient, parmi les quatre joueurs, il y avait une prof qui n'arrivait pas du tout à comprendre les règles. Et c'était les élèves qui expliquaient à la prof, « Non, mais là, il faut lire comme ça. Non, mais regarde, c'est ces deux bestioles-là qui rapportent plus de points. » Donc c'est le plaisir, quoi. Et en plus, là, c'est un jeu où ils se rendent même pas compte que c'est un jeu scientifique. On fait jouer les enfants à ça, et eux, ils vont pas se dire « je vais apprendre quelque chose ». Oh, c'est un jeu comme un autre. Et en fait, ils apprennent quelque chose sans s'en rendre compte. Le prof, ensuite, peut utiliser ça pour réexpliquer les concepts associés. Et c'est sûr que ça va marcher. C'est sûr que les gamins, ils vont écouter le prof et qu'ils vont retenir le concept. Voilà. Donc c'est le plaisir. Il n'y a pas que le jeu de société pour ça, mais en tout cas, le jeu de société, on est sûr que les gamins, ils vont aimer ça.
Je suis d'accord sur le côté fun, mais après, moi, je trouve qu'il y a des vidéos qui peuvent être très, très, très appréciables à regarder. Il y a vraiment des gens qui sont très forts pour ça, pour faire des vidéos où tu restes scotché parce que c'est hyper intéressant sur le fond et c'est bien présenté. Par contre, je trouve que ça m'est arrivé plusieurs fois de regarder une vidéo comme ça super intéressante et de dire à quelqu'un « Ah, mais je veux te raconter ce que j'ai vu dans cette vidéo, c'était trop bien. » Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu as vues et que tu as appréciées, mais que en fait, tu as moins retenu les informations. Je pense qu'au contraire, quand tu as manipulé quelque chose, tu as fait toi-même, là, ça va beaucoup plus se rester ancré, en fait, je pense. Je pense que c'est ça la différence.
Est-ce que vous avez des recommandations de jeux qui allient ludisme et pédagogie ?
Récemment, j'ai découvert Metazoa, un jeu web qui peut être joué sur ordinateur ou sur portable, où l'objectif est de découvrir l'espèce du jour en proposant d'autres espèces. Et le site nous dit au fur et à mesure quel est le clade qui correspond au plus vieil ancêtre commun de l'espèce du jour.
Mais j'avais pas d'idée, mais effectivement, Metazoa, c'est un très bon exemple. Je l'ai découvert aussi il y a quelques mois et mon fils adorait ça, donc on y a pas mal joué. Effectivement, pour le coup, c'est un jeu qui permet de façon assez simple de manipuler des noms de taxons, des noms de groupes d'organismes qui sont parfois très compliqués, enfin bien à la page, quoi, à jour en termes de connaissances scientifiques, donc c'est plutôt bien fait. Je citerai aussi donc un jeu qui s'appelle Sur les traces de Darwin, le jeu complet. Donc c'est un jeu de plateau où il faut collectionner des animaux et en fonction du groupe, de la localité géographique d'où ils viennent et d'autres critères aussi, on accumule des points. Et voilà, celui qui a le plus de points à la fin, il a gagné. Donc ça permet de découvrir les animaux, ça permet de découvrir un petit peu la classification. C'est un jeu beaucoup plus simple, on va dire, en termes de connaissances que Metazoa. Donc, et c'est un jeu qui a très bien marché. Je crois qu'ils ont fait une suite avec Marie Curie, il me semble, sur les traces de Marie Curie. Voilà, c'est pas mal. Puis je vais parler d'un autre jeu qu'une collègue avait développé. Alors c'était à New York. Et c'était peut-être il y a pas loin de 10 ans maintenant. Donc elle a travaillé comme moi sur un groupe de gastéropodes marins qui s'appelle les cônes, qui sont des bestioles venimeuses. Et donc elle avait développé un jeu de société où en fait fallait construire son cocktail de toxines pour essayer de trouver une combinaison de toxines cachées qui était la combinaison la plus efficace. En fait, c'était un espèce de Cluedo amélioré sur les toxines de cône. Et ça s'appelle Cone Snail Killer. Et ça avait été jeu de l'année sur Amazon, je ne sais plus quelle année. Donc j'imagine qu'elle en a vendu quand même quelques-uns. C'est pas facile à trouver en France, je pense, mais c'était plutôt sympathique.
Bah, y a un autre jeu que j'ai découvert récemment et qui est plus, pour le coup, qui n'est pas vraiment sur la phylogénie ou la taxonomie, mais qui est plus sur l'écologie. Et donc c'est Forêt Mixte. Et en fait... j'ai trouvé ça agréable comme jeu parce que voilà, les graphismes sont jolis. Enfin, moi d'ailleurs, j'avais un peu trop tendance à juste choisir les animaux que je trouve jolis pour les jouer. Mais par contre, je trouvais que c'était original dans le sens où il n'y avait pas que justement les animaux, il y avait aussi les champignons, les plantes, il n'y avait pas que les vertébrés aussi, il y avait voilà, des insectes. Enfin, il y avait plein de représentations différentes de la vie. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était assez cool. Et puis, en fait, c'est vraiment centré sur l'écosystème de nos forêts européennes. Enfin, voilà. Donc, ça montre aussi plein de vie qui est près de chez nous. Et ça, c'était cool.
J'espère maintenant, chers auditeurs, que vous êtes réconciliés avec la phylogénétique. Après avoir exploré la biodiversité avec le jeu CLAD, on lève maintenant la tête vers le ciel et les étoiles à la recherche de vie ailleurs. Notre deuxième exemple de jeu s'appelle Drake's Dice et s'inspire du fameux programme SETI lancé en 1960 par l'astronome Frank Drake. Elia, tu as discuté avec Alyssa Pott, la créatrice du jeu.
Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton jeu, de ce qui t'a donné envie de le créer, du processus derrière ?
Le jeu, tout est parti, je reviens à la mission Voyager. Ça fait 50 ans qu'elle est dans l'espace et qu'elle nous donne encore des ressources. C'est la seule mission qui a vu Uranus et Neptune. Bref, c'est quelque chose qui m'a passionnée énormément. Ce qui fait que j'ai fait une pièce de théâtre dessus, ce qui fait que j'ai fait une conférence dessus, et conférence que j'ai été donnée au club d'astronomie du pays de Gex, le club Orion. Ils sont venus vers nous pour nous demander, écoutez, il y a la fête de la science cette année et le thème, c'est intelligence. Et ils nous ont dit, écoutez, vous ne voulez pas nous faire une activité sur le thème de l'intelligence ? Avec Daniel, on est revenus, on est rentrés ensemble à la maison, puis on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le thème de l'intelligence ? Attends, moi, je suis fan des équations Drake, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Donc, on a repris les termes de l'équation Drake, puis je lui ai expliqué un petit peu ce que c'était. Ce qui fait qu'à force de réfléchir, on s'est dit, mais en fait, cette équation, elle est très random. Elle est très hasardeuse, on ne sait pas vraiment ce qu'elle donne, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui ressort de cette équation. Et si on en faisait un dé ? En fait, tout est vraiment parti de cette idée de l'équation de Drake comme un dé. Et après ça, c'était, bon, alors, est-ce qu'il y a des missions spatiales qu'on peut relier à cette équation d'une manière ou d'une autre ? Ok, ce critère-là, qu'est-ce qu'il définit exactement ? On a découvert plein de projets, on a fait plein de partenariats. Ce qui fait qu'on a eu plein de cartes à rajouter dans le jeu. Et l'idée, c'était vraiment d'expliquer l'astrobiologie, la recherche spatiale de manière générale actuellement et comment est-ce que la recherche fonctionne, tout ensemble, dans un seul jeu.
Est-ce que tu peux nous expliquer, en quelques mots, si c'est possible, ce que c'est que l'équation de Drake pour nos auditeurs et auditrices ?
Avec grand plaisir. L'équation de Drake, en 1967, si je ne m'abuse, on a un groupe de scientifiques qui se rejoignent à Green Bank aux USA. Ils se retrouvent pour un week-end de discussion entre eux. Et à la fin de ce week-end, ils ressortent avec deux choses. D'une part, un nom, et ça c'est mon fun fact historique préféré. Ces gens-là s'appellent l'Ordre du Dauphin. Ils ont tous signé, on a une quinzaine, trentaine, je ne sais plus exactement combien, de signatures de membres de l'Ordre du Dauphin. C'est génial, j'adore cette idée-là. Et j'ai vraiment été chercher le document historique parce qu'au début, j'y croyais pas. Et même les IA ne croient pas à cette histoire. Donc, ils sont sortis avec ce nom et une équation, la vie dans l'univers égale. Et donc, l'équation de Drake, c'est 7 termes. D'abord, c'est la vie dans l'univers dépend du taux de formation d'étoiles dans la galaxie. Ça fait 20 ans qu'on est à peu près sûr de ça. Il y en a 3 à 5 nouvelles étoiles dans la galaxie chaque année. Génial, ça on sait. Après, Le deuxième terme de l'équation, c'est la probabilité d'avoir au moins une exoplanète autour d'une étoile. Bon, là, depuis 10 ans, on semble dire il y a toujours une exoplanète autour d'une étoile, ça fait partie du cycle de formation des étoiles. On n'en est pas encore tout à fait sûr, donc on l'a mis sur le D. Après ça, ça devient un petit peu plus complexe. Le nombre d'exoplanètes terrestres sur lesquelles on peut tenir, en fait, où la vie pourrait se développer potentiellement. Là, dans les 20 prochaines années, avec les nouvelles missions, notamment la mission Ariel, Plateau, TESS, qui sont en train de partir pour chercher les planètes terrestres, on dirait qu'il y en a entre 1 et 5. Ça se corse par la suite. Quelle est la probabilité pour la vie de fleurir, d'éclore sur une planète? Aucune idée. La probabilité pour cette vie d'être intelligente? On ne sait pas. De pouvoir communiquer? Ça paraît évident pour nous. Si une vie devient intelligente, elle veut communiquer. Mais si on imagine une vie sous-marine, par exemple, qui ne voit pas les étoiles, elle ne voudra pas forcément communiquer et ne pourra pas forcément développer cette technologie. Et enfin, le dernier terme de l'équation, qui est celui qui change un petit peu toutes les statistiques, c'est pour combien de temps ? Pour combien de temps est-ce qu'une civilisation intelligente peut survivre dans la galaxie et donc communiquer avec nous ? Tous ces paramètres sont, à part les 3 premiers, ils sont très peu connus. Et il y a plein de théories entre la science-fiction et la science qui essayent de tout mettre ensemble pour essayer d'avoir une réponse à tout ça. Mais en gros, l'équation de Drake, c'est ce qui nous permet de chercher et d'avancer en astrobiologie, d'avoir nos repères pour trouver ce qu'on cherche ensuite.
Merci, c'est beaucoup plus clair. Ok, donc le jeu, il en est au stade de prototype, c'est ça ?
Ouais, okay. On est dans les derniers stades de prototypage. Là, le jeu va être imprimé a priori dans les 2 prochains mois. Donc, normalement, le jeu sera livré et sera à la maison pour Noël. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Normalement, il sera même avant Noël, il sera disponible. Mais donc oui, on a commencé en septembre dernier et ça fera 1 an d'ici au prototypage. Enfin, d'ici à l'impression.
Ok, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour mettre le projet en route ?
Beaucoup. Évidemment, très bonne question, Elia. En fait, oui, beaucoup. C'est-à-dire que la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je suis étudiante en master de planétologie. Donc, je suis étudiante. Donc, je n'ai pas de légitimité scientifique à parler de ça parce que j'ai uniquement eu des cours et je ne suis pas chercheuse encore pour le moment. Donc, ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est que je travaille avec La Rose des Jeux, qui est une toute petite entreprise basée à Genève qui a déjà produit un jeu sur la physique quantique. C'est Hop, qui est un jeu d'échecs quantique. Et le truc, c'est qu'on est tout petit. Pour avoir des fonds, pour trouver des gens qui nous font confiance, pour développer un peu tout ça, c'était un peu compliqué. Et puis, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, surtout avec les peer reviewing. Parce que ce jeu est revu par les pairs, notamment par l'Institut européen d'astrobiologie, la Société française d'exobiologie et le COSPAR, le Committee on Space Research. Donc, il a fallu envoyer des mails, et il a fallu que j'apprenne à envoyer des mails pour venir en contact avec tous ces gens. Et maintenant, il faut que j'apprenne à venir devant la caméra, à venir devant l'écran, en fait, de manière générale.
J'ai cru voir que tu avais un projet d'atelier pour les scolaires.
Oui, oui.
Est-ce
oui,
que tu veux
oui,
nous en parler ?
Avec grand plaisir, toujours. L'atelier avec les scolaires, l'idée, c'est de se baser un petit peu sur l'atelier que Joao et Daniel ont créé pour Hop, de commencer avec un quiz d'entrée, mais pas juste avec un quiz d'entrée. Moi, je suis aussi magicienne et l'idée, c'est d'introduire le jeu par la magie. Donc, en faisant des tours d'une manière interactive, d'une manière moins interactive, mais juste pour donner l'envie et surtout pour qu'il n'y ait pas que les scolaires qui aient accès, mais aussi les maisons de quartier, les foyers, les familles, parce qu'on ne parle pas assez de science en famille, j'ai l'impression. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir le dialogue de cette manière-là. Donc, ce spectacle de magie, pour le moment, je suis à 1 demi-heure d'introduction au jeu. Et j'en suis très contente parce que ça fait que 3 ans que je fais de la magie. Donc, être capable de lier l'illusionnisme et la médiation scientifique, c'est vraiment une de mes grandes fiertés. Donc voilà, je suis en train de mettre ça en place.
Écoute, ça répond à la prochaine question. Du coup, tu es présidente d'une association qui est Carte aux Merveilles, c'est ça ?
Alors, c'est moi qui l'ai créée. Par contre, je ne suis pas présidente, je suis porteuse de projet.
Ok.
Carte aux Merveilles, c'est une association de médiation scientifique, mais aussi culturelle. Par la magie, les arts vivants, le jeu, tout mettre ensemble pour justement pouvoir aller à l'approche des gens, pas simplement les écoles, mais aussi toujours et encore les maisons de quartier, ce genre de choses, et d'apporter la science et la culture dans d'autres milieux, par d'autres moyens.
Est-ce que tu as des futurs projets en cours dont tu voudrais parler, ou peut-être que ce n'est pas à spoiler encore?
Drake Dice va avoir une extension qui est en cours de réflexion, d'idéation, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Le but de l'extension, c'est de mettre en avant des femmes, pas simplement des scientifiques, mais des personnes qui ont œuvré pour l'astrobiologie, pour les space science de manière générale. Et le truc, c'est qu'on a cet effet Mathilda qui oui. fait qu'on n'a pas beaucoup de grands noms de femmes en sciences. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Athéna Kousténis, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'on prononce son nom, qui a travaillé avec Michel Mayor et Didier Coelho sur la découverte de la première exoplanète, et donc qui était dans l'équipe, mais qui n'est pas connue pour ça. Aujourd'hui, je crois qu'elle est présidente du COSPAR, si je ne m'abuse, mais ça reste quelqu'un qui a longtemps été dans l'ombre et qui n'a pas forcément eu la chance d'être sur le devant. J'ai oublié le nom de cette femme, mais il y a une femme qui a découvert les anciens astronautes, c'est-à-dire les descendants des anciens astronautes. Dans le Chili, si je ne m'abuse, il y a ces grands dessins qu'on peut voir depuis le ciel, ces assemblages de pierres qui forment comme des anciens astronautes, qui ont été découverts par une femme qui s'est dit « Et si j'essayais de nettoyer le désert, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là ?» Et cette femme n'est pas du tout connue. Alors que moi, je trouve ça extraordinaire, cette histoire, la découverte de manière générale. Je crois qu'il y a un documentaire sur elle, peut-être deux. Je n'ai pas encore étoffé toutes mes recherches. Mais il y a énormément de scientifiques et d'artistes, de personnes qui ont œuvré pour l'astrobiologie, qui ne sont pas du tout connues. Et là, l'idée, c'est de faire une équipe de femmes pour avoir tous ces noms en tête et leurs spécificités, et que ça donne quelque chose en plus au jeu.
Qu'il s'agisse de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux de construction ou encore de jeux vidéo, le jeu en lui-même constitue un superbe outil de médiation scientifique. À travers ces deux exemples, nous espérons vous avoir montré tout son potentiel et qu'à votre tour, vous ayez envie d'expérimenter, de créer ou de détourner des jeux pour voir la science autrement. Allez, à vous de jouer ! C'était une émission préparée et réalisée par Elia Techer et Charlotte Bonne. Vous pouvez écouter l'émission sur vos applications de podcast préférées. Retrouvez-nous sur labodessavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission.